qu'il dégage en termes émotionnels, donc mais il a aussi une auto-analyse, il a cette capacité, puisqu'on lui a donné les outils, en tout cas il a appris à maîtriser des outils dans cette thérapie, qui lui permettent d'évaluer un peu son état psychologique pour retourner vers des situations à risque. Donc ça c'est important, c'est à lui de décider, mais il le fait en s'appuyant quand même sur cet effet miroir des autres qui ont traversé ces épreuves avant. Et je crois que c'est très utile. Donc, comme on en a parlé avant de venir, je dis, c'est à toi de te sentir, te mets pas en danger, prends du recul, et ça c'est important. À partir du moment où il sent que il y a quand même un risque, et surtout que c'est un lieu où il a consommé, un milieu professionnel où il a consommé, donc il y a une mémoire, et cette mémoire elle est tellement forte que pour l'instant c'est peut-être encore trop pas vif, il faut laisser un peu de temps et avoir cette capacité de dominer ce qui remonte de ce passé. Donc il a des outils pour ça, et je pense que il a effectivement, ce qui domine en ce moment, c'est la frustration. Il y a cette frustration de ne pas pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, vraiment, mais je pense que ça, il y a un temps d'acceptation et peut-être capituler un temps pour y revenir plus fort.
Je crois aussi que moi j'ai appris une chose très importante, c'est qu'il y a toujours une manière d'y revenir, mais différemment, en travaillant différemment et surtout en prenant soin de soi-même différemment. C'est-à-dire que moi je me rends compte aujourd'hui d'une chose, c'est que si jamais j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Je vais compulser dans le travail, c'est clair. Je vais travailler comme un damné, je me connais. Et si, travaillant comme un damné, je serai fatigué, mais surtout, je vais mettre en péril tout ce que j'ai acquis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, je vois ça comme un cheminement. Il est spirituel ou il ne l'est pas. Pour moi, il l'est, je crois. Et je vois très bien que quand je pense à tout ça, j'essaye de faire le point dans ma tête. Je vois très bien que tout ça, ça rentre en concurrence. Et finalement, au détriment de ce que je suis au fond de moi, ça me déchire. Voilà, ça me déchire. Et ce déchirement, je n'ai pas envie de le vivre tous les jours en allant au travail. C'est tout. Je sais que c'est... Parler de frustration, moi je parlerais plutôt de renoncement. C'est la différence très forte qu'il y a entre la frustration et le renoncement. Le renoncement, il est conscient. En tout cas, c'est un renoncement conscient pour l'instant. Alors c'est dur. Je suis pas nécessairement très très heureux. Mais je suis sûr en tout cas que c'est pas là que je vais trouver mon bonheur en ce moment. Voilà, c'est tout. C'est dur, c'est très dur. Oui, honnêtement, oui. Voilà. Bref.
Vous pouvez nous appeler au 01 34 12 12 22. On marque une pause.
Je sais et j'y reviens toujours. Je sais
concert contre le sida.
Avec Allo et Black, Moby, Yael Naïm, Moriarty, Cold War Kids, Vitalik, Peter Doherty, Klaxons, Les Ogres de Barbac, Ayam, Morshiba, Gaëtan Roussel, Stromae, Aaron, John Butler Trio, Patrice et beaucoup d'autres.
Info Reza, solidays.com et point de vente habituel.
Solidays. Pour le prix d'un concert, offrez-vous un festival. Un événement Solidarité Sida.
Votre émission Face à Face, Michel Léger, Fabrice à la manette technique. Ludovic.
Oui.
Ludovic, vous avez écrit un livre, vous nous donnez les coordonnées pour les auditeurs que ça intéresse.
Je suis Ludovic Lefebvre, L-E-F-E-B-V-R-E. Le livre s'appelle L'oublié d'Outreau. Il se trouve aux éditions Tatami. Il peut être commandé à la FNAC, un petit peu partout, y compris sur le site de l'éditeur, tatami.fr. Voilà.
Vous, dans le peu que j'ai lu, parce que j'ai pas pu tout lire, vous parlez d'amour avec une femme. Après ce que vous avez vécu, est-ce qu'on peut arriver à créer une vie de famille à...
Bien sûr.
Ou est-ce que...
Bien sûr. C'est... C'était des actes contraints et forcés qui correspondaient à des pulsions qui n'étaient pas les miennes. J'ai connu des femmes avant ces actes, j'en ai connu après. Et oui, bien sûr, il suffit de prendre courage d'être soi, d'avoir envie d'être soi, de se baser plutôt sur le comment que sur
c'est
le
quoi,
pourquoi.
C'est quoi être soi ?
Être soi. Moi, je serais plus dans la définition de Socrate quand il dit « deviens ce que tu es », c'est-à-dire « trouve ta place dans le monde, trouve l'activité professionnelle que tu aimes, les amis que tu as envie d'avoir, le foyer que tu as envie d'avoir, la femme, rencontre-la, sur l'hypothétique comment, avec des grilles de lecture... très hypothétique et très souvent démenti par la suite que peuvent être par exemple la psychanalyse ou des choses dans ce genre. Je crois vraiment à un pragmatisme, à un retour au réel, laisser une place au symbolisme. J'aime beaucoup par exemple écrire une littérature qui est surréaliste, j'écris des nouvelles surréalistes. J'aime le symbolisme, mais je ne lui laisse pas toute la place et je ne laisse pas non plus le symbolisme réécrire le réel. Je ne le mets pas à la place du réel. Donc tout simplement, voilà, je j'ai pas comment on fait, c'est naturel, j'aime les femmes, je suis tombé très amoureux d'une femme il y a quelque temps, J'en ai connu d'autres avant. Il n'y a pas de méthode. Si vous savez, le cœur a des raisons que la raison ignore. Et on essaie toujours de mettre un raisonnement, c'est-à-dire quelque chose d'intellectuel, sur quelque chose qui est du sentiment. Et je ne suis pas sûr que ce soit bien possible.
Mais c'est horrible ce que vous avez vécu, sans rentrer dans les détails. Ça n'a pas d'influence sur le reste.
Je suis meilleur aujourd'hui. Je suis probablement meilleur que ce que beaucoup de gens vont pouvoir être dans leur vie, parce que tout simplement, moi je crois très fort à cette phrase de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend meilleur. Et je crois qu'effectivement, lorsque l'on a vécu des choses difficiles, celle-ci, le sevrage de l'alcool, des fois je me suis fait casser la gueule, les overdoses que j'ai pu avoir, des choses pas toujours super gaies, ou quand on a le deuil de ses parents, des ruptures, il y a un tas de choses dans la vie. Et effectivement, moi je crois que traverser après ça, cette grandir émotionnellement, passer à travers la difficulté, me rend meilleur, je m'améliore, je suis plus fort psychologiquement, je suis plus fort dans ma vie aussi, je suis plus serein. J'ai rencontré un jour une femme qui avait 40 ans, qui avait été quittée par son mari parce qu'elle avait 40 ans et qui n'avait jamais fait le ménage, qui n'avait jamais rien fait, qui ne savait rien faire de sa vie et qui était complètement paniquée, la pauvre, et sa souffrance était paroxystique. Moi j'ai le cuir tanné, je suis un taureau, vous voyez quand même. Et cette personne était, j'en suis persuadé, avec son petit problème de divorce, beaucoup plus en souffrance que je n'ai jamais été.
À vous voir ce soir, bon, on a l'impression que Ludovic pète la forme.
Je le fais pas exprès, hein, c'est...
Non, mais j'ai jamais dit ça non plus. Mais on a vraiment l'impression que c'est la joie de vivre, Et oui. Pourtant, vous avez vécu l'alcool, la drogue, les médicaments,
Je me suis rétabli. Je suis passé par le centre APT, je suis passé par EDVO, j'ai pris cette aide. Tout ce qu'ils m'ont proposé, tout ce qu'ils m'ont dit, je l'ai fait. Et d'ailleurs, APT, c'était un endroit clos et j'avais besoin de ça. C'était la première fois de ma vie que je ne consommais plus rien du tout. Donc les crises d'épilepsie, les crises d'angoisse très fortes, le délire pendant le sevrage. J'étais devenu fou à un moment de ma vie pendant le sevrage et j'en avais conscience, vous voyez, c'était pas très agréable. Et j'étais sous Tegretol aussi parce que j'étais une consommation très très forte. Je prenais un médicament qui était interdit depuis, qui s'appelait l'hérohypnol de milligrammes. Je prenais de l'héroïne, je prenais de l'alcool. J'avais un comportement complètement suicidaire. Et donc voilà, tout ça, il a fallu que ça se remette d'aplomb et ça m'a pris quelques temps. Et effectivement... De quoi me suis-je rendu compte? C'est qu'à chaque fois que j'ai une émotion et que je la passe, la seule façon de ne plus avoir cette émotion, c'est tout simplement de la dépasser, et après elle part. Oui, comme l'enfant qui a peur de dormir seul dans sa chambre. D'ailleurs, enfant, en grec, c'est celui qui ne parle pas. Et moi, je suis quelqu'un qui parle énormément. Vous voyez, je n'arrête jamais.
C'est un homme. Jean-Paul Bruno, Ludovic nous parle de APT. APT est un centre de traitement, mais il y en a d'autres.
Il n'y en a pas beaucoup d'autres.
Non, mais il y en a d'autres.
Nous avons, j'ai pu connaître ce centre qui existe depuis une quinzaine d'années. Et ça fait bientôt 25 ans que je m'occupe de problèmes d'addiction, à la fois bénévolement et professionnellement. Ce centre est un peu unique, il l'est toujours d'ailleurs en France. Il y a bientôt une communauté thérapeutique qui prendra ce même modèle du côté d'Aubervilliers. Donc APT n'existe plus, on l'appelle Aurore maintenant puisqu'il y a une fusion entre ces deux structures. À EDVO, on a... adopter la méthode Minnesota qui était pratiquée dans ce centre de soins, parce que là on parle d'un centre de soins, où pendant 2 mois, à l'époque de Ludovic, maintenant 2 mois et demi, on réapprend à vivre sans produit. Donc c'est un centre de soins modèle Minnesota, c'est-à-dire qu'on travaille par étapes sur soi et on utilise un travail basé sur l'entraide, l'écoute, mais surtout la thérapie de groupe, qui est donc un effet miroir
d'une vingtaine de personnes qui ont traversé les mêmes épreuves et qui ont une capacité, disons, d'analyse et de retour, en tout cas, sur l'émotion qui est exprimée dans le groupe, beaucoup plus, je dirais, consciente et objective pour faire progresser ou pour trouver ensemble les outils, en tout cas, ou les moyens de dépasser ces émotions. Donc, cette thérapie de groupe pratiquée dans ce centre de soins est pour nous un modèle qu'on a transposé deux fois par semaine dans nos groupes de thérapie, mais on ne fait pas que ça, puisqu'on vise l'autonomie sur 6 à 9 mois. Donc, on aide les personnes à trouver en eux, donc, cette force interne, se reconstruire, avoir de l'estime de soi, se faire plaisir, mais également donc repartir plus en confiance vers des situations où on doit s'assumer comme tout le monde. Voilà, donc c'est important, et Ludovic est un exemple comme un certain nombre parmi ceux qui sont passés à EDVO. Il faut croire que c'est pas toujours un toxicomane un jour, un toxicomane toujours. Attention, danger. Il faut garder beaucoup d'espoir, et il faut laisser beaucoup d'espoir à ces malades dépendants ou à ces personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont basculé dans la non-maîtrise, dans l'addiction, dans quelque chose qui est l'enfer, et certains n'en sortent pas, où certains ont pas suffisamment, disons, de résistance ou de capacité à se reconstruire. Tout le monde ne se reconstruit pas comme Ludovic. Et je pense qu'il avait un potentiel, heureusement, donc, qui lui permet aujourd'hui de retrouver toutes ses facultés, et voire même de les développer, puisque il ne parle pas de tout son cursus de formation et de réussite, mais je sais qu'il écrit des pièces de théâtre aussi, et qu'il a beaucoup de capacités aujourd'hui retrouvées, et je dirais que on n'est pas au bout de, je dirais, du chemin, loin de là, et je lui souhaite vraiment de réussir dans tout ce qu'il entrevoir et voir avec conscience aujourd'hui. Mais je pense que pour Joseph, c'est un début, puisqu'il est... ça fait combien de temps? Un an?
De
tu es abstinent, enfin, que tu as appris cette thérapie.
Ça fait 17 mois.
17 mois. Donc, ouais. Il faut du temps pour se reconstruire. Et je pense que ta prudence t'honore et te met dans cette situation du prendre soin de soi. C'est très important.
Joseph, Jean-Paul Bruno parlait d'estime de soi.
Parler d'estime de soi?
Oui. C'est revenu chez Joseph, ça?
Vous savez, l'estime de soi, ça, c'est quelque chose, je crois que c'est quelque chose qui a besoin de preuves. Et les preuves, c'est toujours les autres. Vous savez,
c'est le regard de l'autre.
Ça peut être sa femme, ça peut être son enfant. Quand ma fille, qui a 6 ans, qui va bientôt avoir 7 ans, m'a regardé de nouveau, comment dire, comme si j'étais son père, j'ai toujours été son père, mais son père entreprenant, avec qui elle avait envie de faire des choses, avec qui elle avait envie de jouer, avec qui elle avait envie de parler.
Elle a quel âge?
Elle a bientôt 7 ans. Avec qui elle avait, et dont elle était fière, parce que c'est ça, des petites choses comme ça qu'on ressent. Parce que moi, je crois beaucoup aux petites gratitudes de la vie. Pas aux grandes gratitudes, aux petites gratitudes de la vie. C'est comme des petits cailloux qu'on sème tous les jours, et à force de les semer, il se passe quelque chose. Et c'est parfois un enchantement. Moi, quand j'ai vu ma fille à ce moment-là, je sais le dater, j'ai pleuré. Je ne vais pas montrer que j'ai pleuré, parce que je veux dire, c'est aussi, je voulais... Parce que derrière tout ça, il y a un peu le masque de la souffrance, de la peine que je lui ai fait pendant que je consommais. Mais...
Elle a pris conscience de ça?
Je ne sais pas si c'est une prise de conscience, en tout cas, elle est tout à fait... Elle en est... Si, elle en est consciente, après, elle n'en parle pas, mais je sais bien qu'elle en est consciente.
Vous en avez parlé avec elle?
J'en ai un tout petit peu parlé avec les mots. Il faut trouver les mots, vous savez, à cet âge-là, parce qu'il y a l'école, il y a le poids de l'école, il y a aussi le regard des autres enfants qui peuvent... C'est très dur, vous savez, je veux dire, vous savez, je ne sais pas ce que disent les autres enfants, j'ai jamais voulu m'en mêler. Elle ne m'a jamais rien dit, mais j'ai peur que peut-être que quelques indiscrétions et peut-être que quelques paroles malveillantes aient été prononcées à mon égard, parce que j'étais quand même assez... Le paradoxe que j'ai eu dans ma vie de consommateur d'alcool, et de... vraiment j'ai consommé beaucoup, c'est que je m'occupais aussi de l'école. je m'occupais aussi de l'école de ma fille. Je connaissais tous ces instituteurs. J'ai occupé une école tout seul pour qu'une classe soit ouverte. Elle a été ouverte. J'ai fait des choses comme ça, mais grâce à l'alcool. Donc les gens devaient peut-être s'en rendre compte, peut-être s'en rendaient-ils pas compte. En tout cas, ils me pensaient que j'étais un peu timbré, bien gentil, mais timbré. Et ma femme, ça a été plus long. Ma femme, pour tout dire, on a dû entreprendre. Ma femme me l'a dit après, mais quand je suis allé au centre de soins dont vous parliez tout à l'heure, je me rappelle que j'ai pris le taxi pour aller jusqu'à la gare du Nord. Un matin, elle m'a pas embrassé, et puis pour elle, c'était fini entre nous. Moi, je le savais pas, je voyais rien. J'étais aveugle. Et en fait, par la suite, elle a voulu me le dire dans ce centre de soins. Finalement, on s'est pas quitté, on a essayé de repartir ensemble, et ça y est, mais on a fait une thérapie de couple qu'elle est bientôt terminée, je pense. C'est tout un travail qu'on a fait à deux, mais pas seul. Et avant, je pense qu'on vivait chacun l'un à côté de l'autre sans se... Moi, je voyais plus rien. Je veux dire, elle avait une telle... Je voyais même plus sa souffrance. Juste avant qu'elle parte, elle avait un bras cassé. Je ne l'aidais jamais. Je ne sais même pas... Alors là, pour le coup, j'ai pas envie de savoir pourquoi. Je ne sais pas expliquer. C'est tragique, mais c'est comme ça. C'est pas une question de manque, d'amour. C'est ça qui est terrible, je trouve, avec l'alcool. C'est que ça vous dépossède de tout. Malgré vous. Malgré vous. Et c'est ce malgré vous qui est le plus important, je crois. Moi, je n'étais pas comme ça. Je suis pas comme ça. C'est pas moi. Sauf que je l'ai fait.
Jean-Paul Bruno, un commentaire à ce que vient de nous dire Joseph.
Bien, c'est très proche de ce que certains peuvent ressentir. Et je pense que c'est bien de le dire pour libérer la parole. S'il y a des auditeurs qui sont dans cette souffrance, il ne faut pas se cacher. Il ne faut surtout pas mettre le couvercle et dire « ça va passer ». En parler, c'est... ouvrir un nouvel horizon, c'est se libérer et venir en parler à des personnes qui sont capables d'écouter, sans juger, sans pour cela trouver une solution miracle, mais simplement permettre à la personne de vider un peu ce qui est trop lourd à porter, ce qui est de l'ordre d'une souffrance qui ne lâche pas, qui est persistante, et avec cette capacité d'écoute, eh bien, on peut amener la personne donc à trouver des pistes pour réagir, agir et faire un bout de chemin ensemble sur du mieux-être. Et pour arriver, comme le disait Ludovic, eh bien, au plaisir de vivre maintenant et de s'assumer complètement. Donc il faut surtout donner cette notion d'espoir et puis arrêter de subir. Et aider les personnes dans ce chemin très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui subissent des situations et qui vont mettre 10 ou 15 ans à demander de l'aide. Et c'est souvent cette demande d'aide qui est très difficile. Aller vers les autres, aller ailleurs qu'à travers des produits, fuir cette souffrance en tout cas. Et la solution, c'est pas le produit, même si ça soulage, même si ça peut sauver du suicide, parce que c'est clair que cette béquille chimique, elle permet de traverser des moments encore plus difficiles. Quand on est au bord du précipice, ça va soulager. Mais ce n'est pas la solution. La solution, elle est ailleurs.
Vous avez dit à notre auditrice tout à l'heure, maintenez vos médicaments, venez voir et maintenez vos médicaments.
Oui, tant qu'on n'a pas mis autre chose de plus confortable, disons plus facilement gérable, pour retrouver une capacité à être un peu plus, disons, en harmonie avec la vie, avec ses proches, avec ce que l'on fait de sa vie. Donc le médicament, comme je disais, comme pour les drogues, comme pour l'alcool, joue un rôle de béquille pour aller plus loin. Donc c'est ce plus loin qui est intéressant, c'est-à-dire pouvoir récupérer la personne à un moment où elle va demander de l'aide. Et s'il n'y a pas de demande d'aide, c'est sûr que ça peut durer très longtemps, et puis il y a des effets de non-retour avec certains produits. Donc si on peut aujourd'hui déclencher chez certains auditeurs ou auditrices l'envie...
C'est le but de l'émission. Hein.
Voilà, donc on est là pour ça. Et je pense que si au moins on sauve une personne ou on aide une personne, on aura joué ce rôle d'information et de contact, de proximité en tout cas. Les personnes addictes peuvent en tout cas appeler. Je pense qu'on a des réponses.
Ludovic, que dire aux auditeurs là, qui nous écoutent pour... Aujourd'hui, vous êtes, je dirais, moi je vous vois dans le studio, vous pétez la forme. que vos conseils. Vos conseils pour...
C'est très difficile de donner ce type de, ce type de conseils. Je dirais appeler EDVO et appeler APT si c'est un problème de consommation, un problème de confiance en soi. Les réponses vont varier d'une personne à l'autre, voyez-vous. Et moi, quelque part, je crois que quand on prie, par exemple, on appelle le meilleur de nous-mêmes, que Dieu, c'est pas Dieu, Dieu est en nous, on est Dieu. Je crois que par la cartomancie, quand on nous tire l'avenir, c'est notre inconscient, quelque part, qui connaît déjà les réponses et qui les sort, ce qui n'est pas à négliger, ce sont des vecteurs qui permettent de les révéler, par exemple. J'ai toute une philosophie qui m'est personnelle et qui m'est propre, qui ne va peut-être pas convenir à autrui. Donc, je sais pas, je prends beaucoup de plaisir à jouer la comédie, à diriger des comédiens, à écrire des romans, à écrire des nouvelles, et d'autres personnes peuvent avoir horreur de ce type d'activité. J'aime conduire la nuit, j'aime parfois...
Voilà. Vous croyez en Dieu ?
Je suis...
Vous voulez en parler ?
Non, en fait, je suis très embêté quand... Il y a quelques mois, j'ai appris une très mauvaise nouvelle et je suis tombé à genoux et j'ai dit mon Dieu aide-la, mon Dieu aide-moi, aide-nous quoi. Et en fait, alors que je pense ne pas croire en Dieu, mais dans ce moment d'urgence, dans ce moment terrible de désespoir, c'est la première réaction, c'est le premier mot qui donc je ne sais pas, je crois que dans ces moments-là ça m'est révélé qu'il y a des suites de hasards qui sont troublantes. Maintenant je n'y mets pas un dieu précis, je n'y mets pas un dogme précis, donc on pourrait dire que je suis athée la plupart du temps, mais que je suis agnostique dans les situations d'urgence, voyez-vous.
Quand ça vous arrange.
Là, ça s'est fait tout seul, hein. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire ça parce que ça m'arrange. Mais j'aurais fait, parce que moi, j'aime bien faire les choses qui m'arrangent, voyez-vous, en général. Oui.
Joseph.
Des conseils ?
Non, oui, la même question, vous croyez en Dieu ? Et si vous y croyez, ou imaginons qu'il existe, qu'est-ce que vous lui demanderiez pour surmonter tout ce qui reste, enfin tout le chemin qui est devant vous ?
Je vais être franc, j'ai longtemps cru en Dieu, de façon très, très religieuse même. Très religieuse, et aujourd'hui je ne sais plus si je crois ou pas, ce qui est la pire des choses qui soit, je crois. C'est une notion que, pour l'instant, j'ai rejetée de ma vie. J'ai décidé de faire comme ce que préconisent les bouddhistes. De toute façon, on ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas, donc faisons comme s'il n'était pas là, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et je fais comme s'il n'était pas là. Après, j'ai des élans. Je crois qu'il y a un principe de bienveillance universelle, je ne sais pas comment le nommer, qui existe vraiment. Mais c'est par, vous savez, c'est pas une croyance, c'est pas une croyance, c'est des fulgurances de croyances que j'ai dans certains moments, notamment dans les contacts que je peux avoir avec les personnes aujourd'hui parfois, ou si j'écoute certaines musiques, ou si je vois certaines choses. Voilà. Dans l'art, tu parlais de l'art tout à l'heure, effectivement, j'ai parfois eu ce sentiment-là aussi. Après, je sais pas.
Je vous propose de marquer une pause. Il vous reste pas longtemps pour nous appeler. 01 34 12 12 22. À tout de suite.
Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean. Musette. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chipée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre yeux, n'allons croire toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Passé, n'en parlons plus.
Votre émission Face à Face, aujourd'hui l'Association nationale EDVO. Jean-Paul Bruno, on a vu on a vu les difficultés de Joseph et Ludovic. Ils sont tous les deux différents, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, qu'est-ce que votre association peut conseiller pour maintenir cette sortie d'addiction qu'ils ont réussi tous les deux, hein?
Alors, la sortie d'addiction, c'est un long chemin, comme je le disais tout à l'heure. Chacun doit y aller à son rythme, se donner du temps, pas se précipiter sur le premier travail. Donc, à EDVO, déjà, les trois premiers mois, c'est prendre soin de soi. Poser un peu sa vie, réfléchir un peu sur l'orientation de sa vie, mais c'est aussi se débarrasser de tout ce qui vient un peu encombrer l'esprit, le surendettement, les problèmes familiaux, un logement qu'on a abandonné pour aller soigner, c'est sa voiture qu'on a laissée sur un parking.
Vous aidez le...
Donc tout ça, donc, c'est faire le point. Et repartir aussi sur le plan santé, faire le point là-dessus, un peu détecter tout ce qui n'a pas été vu, les soins dentaires qui posent souvent un énorme problème, les problèmes hépatiques aussi, beaucoup d'hépatite C qui n'ont pas été traités. Donc c'est un espace où on va pouvoir commencer une trithérapie pour éviter l'évolution de cette maladie. Donc ça, c'est les premiers 3 mois. Les 3 mois suivants, ça va être plus commencer à évaluer ses capacités, de se projeter dans un futur pas trop éloigné, mais plutôt proche. Déjà, réfléchir si est-ce qu'on va reprendre le métier d'avant. Est-ce qu'on va se donner un peu plus de temps aussi en prenant des chemins de travers, c'est-à-dire pas forcément faire ce qu'on a envie de faire, mais avoir un peu un travail alimentaire pour un mi-temps, pour consacrer encore du temps à la thérapie et aussi se faire plaisir en retournant vers des activités qu'on a aimées, comme le sport, comme la musique, le théâtre, enfin peu importe, chacun a une corde sensible sur laquelle il va pouvoir s'appuyer à nouveau pour bien avoir des moments de... disons de bien-être avec ce qui va stimuler le circuit de récompense dans son cerveau et lui procurer un peu de plaisir. Voilà, donc ce temps pour également donc renouer des liens avec des proches qu'on a
le temps, disons, du rétablissement un peu oublié ou en tout cas mis de côté, parce que souvent les parents n'ont pas évolué au même rythme ou les proches n'ont pas évolué au même rythme. Donc reprendre contact et redonner de la confiance, en tout cas faire voir qu'on a changé, et ça permet quelquefois de retrouver des choses qui manquent dans sa vie personnelle, c'est-à-dire retourner vers des sources ou des choses en tout cas un peu plus familiales, ou également donc réinvestir un espace. Il y en a qui vont pas retourner dans leur région ou en tout cas dans un environnement où ils avaient consommé. Donc là, retourner un peu voir des amis qui ne consomment pas, parce qu'on s'interdit beaucoup de choses, on se sent trop fragile. Donc ces trois mois suivants, c'est souvent se faire accompagner pour aller faire des démarches, donc être avec un autre, ne pas être seul, mais être plutôt avec un plus ancien dans l'association ou quelqu'un avec qui on a plus d'affinité en tout cas, pour eh bien parer à toute fragilité ou au tout moment un peu critique, et avoir quelqu'un avec qui parler dans l'instant et dépasser toute difficulté. Et puis au fur et à mesure, donc comme c'est à EDVO, ce n'est pas isolé, puisque dès le premier jour, on leur demande d'aller faire à l'extérieur de nos murs, en tout cas, un certain nombre de choses, à savoir aller dans des groupes de parole pour se faire de nouveaux amis qui ne consomment pas. Donc ça, c'est une démarche quotidienne. Ne pas se replier sur soi, ne pas s'isoler et ne pas surtout considérer comme notre structure comme un lieu hyper protecteur. La vie n'est pas faite de barrières, au contraire, il faut un peu repousser ces barrières. Donc il y a un temps pour tout ça. Et puis ensuite, bien sûr, il faut préparer l'autonomie, donc rechercher un logement. Même si on a un travail, ça ne veut pas dire forcément que on a gagné son autonomie. Aujourd'hui, trouver un lieu plus intime pour se retrouver non plus dans ce groupe, mais chez soi, créer son environnement, s'y sentir bien, ça se fait aussi en douceur. Donc on a des partenaires, surtout sur Paris, pour préparer un peu cette autonomie. Donc ce qu'on appelle les appartements thérapeutiques, où il y a encore un accompagnement avec un éducateur, un psychologue, qui seront là donc ponctuellement pour venir en soutien de cette gestion de l'autonomie, d'un espace individuel, et pallier bien sûr à tous ces problèmes liés à la gestion. Gestion de son budget, gestion d'un espace de vie, d'une hygiène de vie aussi. Donc réapprendre l'autonomie, qui est donc une période encore difficile. Et quand on est, disons, à la sortie de ces appartements qu'on appelle donc appartements thérapeutiques, ça peut durer un an. Donc si on prend depuis le départ, 2 mois et demi de thérapie lourde en centre de soins, 6 mois, 9 mois à EDVO, en hébergement et en thérapie d'accompagnement et de redynamisation, et puis 1 an en appartement, donc vous voyez déjà le parcours assez long pour se reconstruire. Donc tout ça pour arriver à dire je gère ma vie, je gère aussi ma situation professionnelle et un logement que bien sûr il faut trouver. On s'inscrit sur des listes, on attend patiemment et ça c'est pas toujours simple à gérer. Donc on essaie d'être là aussi, soit d'une façon très intensive au départ et puis de moins en moins pour permettre cette fameuse autonomie. Et je dirais que la réalisation de soi, c'est ça. Il y a toujours la fragilité et les dangers de rechute sont toujours là. Et Joseph disait tout à l'heure, je suis malade alcoolique, abstinent. Ça veut dire que la maladie reste. Si on retouche à un verre, si on retouche à un joint, si on retouche à certains produits psychotropes de pharmacie, on peut recréer quelque chose qui fait écho sur une mémoire. Et ça, le disque dur, il est imprimé, et remettre un produit psychoactif, ça redémarre très très vite.
Même 15 ans après.
Même 15 ans après, on a vu des rechutes au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. Et ça, il faut accepter de dire plus jamais l'alcool, plus jamais le petit joint qu'on aimait bien. Mais si on n'est pas en lutte contre ça, ce n'est pas une souffrance, c'est une acceptation, et je dirais même un confort de vie, et voire même, pourquoi pas, une fierté, voire même, je dirais, quelque part, quand on se regarde dans son miroir, quelque chose de valorisant. Je suis capable de dire non. Et être capable de dire non, c'est plutôt valorisant. On flatte son ego avec tout ça, donc c'est pas facile au départ, hein. Puisqu'on est dans une société de consommation, et puis c'est tellement plus facile de dire oui, et pour ne pas contrarier celui qui offre un verre à l'apéritif. Allez, tu vas bien trinquer avec nous, le petit verre de champagne, on ne fait pas partie de la fête si on n'a pas ce petit verre de champagne. Alors dire non, c'est pas facile. Ou être dans un groupe où tout le monde fume et être là sans pratiquer ce que font les autres, c'est quelquefois difficile à vivre, hein. Donc c'est apprendre tout ça, apprendre tout ça, et en tirer plutôt un bénéfice plutôt que de se sentir diminué par ça. Donc voilà un peu ce qu'on leur apprend. Ils s'apprennent aussi, quand ils sont tant au centre de soins qu'à EDVO, comment on va rechuter. Donc ils ne peuvent pas dire je savais pas, puisqu'en fait tous les mécanismes sont identifiés avant de rechuter. Donc celui qui prépare sa rechute, on peut lui dire. Et d'ailleurs l'effet miroir, c'est tu es en train de préparer ta rechute, et on leur donne un peu toute la recette à suivre pour rechuter, mais ils le savent très bien. Donc celui qui est dans le déni à ce moment-là, il va pouvoir se rattraper en disant effectivement là je suis dans des comportements où je prépare le retour vers les produits, et je suis dans à nouveau un cheminement qui n'est pas une progression vers ce que je recherche réellement. Donc la prise de conscience, quand on est tout seul, faut se la faire tout seul, et se la faire peut-être avec ses amis quand on va mal, et qu'on a appris justement à demander de l'aide, parce que ça s'apprend aussi. Donc qu'on ose un peu parler de soi. Donc ça veut dire être honnête avec soi et être honnête aussi avec les autres. Et l'école un peu de la vie, c'est ça, c'est être soi, être honnête avec soi et être honnête avec les autres. Quand on est dans une relation de confiance, on peut construire là-dessus. Donc rien n'est simple, et la prudence ne doit pas empêcher de vivre, et surtout doit permettre en tout cas cette prudence de cheminer à son rythme. Et ça c'est important. Et je dirais qu'il ne faut pas précipiter les choses. Et la réaction de Joseph par rapport à ce qui lui est proposé est tout à fait, je dirais, quelque chose, un signe de force quelque part. Et on ne plonge pas dans une situation qui est offerte, et on réfléchit avant. On a cette capacité de discernement et de réaction et d'acceptation. C'est très important.
Vous parliez d'aide, Jean-Paul Bruno. Comment peut-on aider l'association ?
Alors, l'association, comme nous sommes uniques en France dans notre modèle, avec le centre de soins, on est les deux seuls. Et ça, c'est un peu gênant, puisque financièrement, nous dépendons des budgets d'État. Et l'État fonctionne avec des grandes généralités, c'est-à-dire soit on s'occupe d'hébergement et pas d'accompagnement. Donc il y a un type de financement pour ça, qu'on appelle les appartements relais ou les maisons relais. Il y a les CHRS, les centres d'hébergement de réinsertion sociale. Là, on prend tout public, ceux qui consomment encore, ceux qui ne consomment plus. Mais EDVO, EDVO est une structure d'hébergement où on ne consomme pas, où on garantit un peu un espace de vie sans produit, et où on fait de l'accompagnement avec de la thérapie de groupe et de la redynamisation. Donc ça, c'est pas prévu dans, je dirais, le cahier des charges qui nous permettent d'accéder aux agréments. Donc nous avons pour l'instant encore un agrément qui s'appelle l'ALT, l'allocation de logement temporaire, qui ne représente que 35% de notre coût de journée. Donc nous avons un coût de journée à 25 euros par jour et par personne. On est une des structures où tout est compris, nourriture, chauffage, j'en passe, tout le reste, l'accompagnement. Nous sommes une des structures les moins chères et nous sommes la moins prise en charge par les financements d'État. Et ça, ça pose un problème parce que nous ne pouvons pas rentrer, disons, dans les schémas classiques des agréments actuels. Donc le seul agrément que nous avons est mis en danger cette année par de nouvelles contraintes administratives qui font que on doit pouvoir répondre à l'hébergement du 115, c'est-à-dire répondre à l'urgence. Dès qu'on a une place vide, ben, il faudrait pouvoir ouvrir, alors qu'on a réservé cette place pour un sortant de cure qui attend impatiemment de venir chez nous. Nous avons une liste d'attente, mais si on doit, sur, disons, à la demande de la DAS, État, répondre à toutes les demandes du 115, c'est clair que la mixité de ces publics va mettre en danger notre thérapie et notre façon de procéder pour la réinsertion.
On peut adhérer à l'association ?
Tout à fait. Donc nous sommes très ouverts à toute adhésion, à tout don, qui sont défiscalisés à 75% des revenus, bien sûr. Donc, comme nous faisons de l'hébergement, donc 75%, l'adhésion est à 26 euros, chacun peut donner ce qu'il veut, bien sûr, et 75% défalqué de ses impôts, au moins, ça sert utilement, puisqu'on sauve des vies à EDVO. Et cette année, donc, on développe le mécénat pour aller vers les entreprises, apporter notre savoir-faire en échange, bien sûr, des dons. Donc, s'il y a des entrepreneurs ou des personnes qui ont une société, donc nous sommes là pour rendre service à leur personnel dans le contexte de la prévention et de la prise en charge, mais bien sûr s'ils peuvent nous aider, eh bien ils contribueront à notre développement puisque nous avons 9 places supplémentaires à créer pour arriver à 35 places cette année et faire face à toutes les demandes.
On marque une pause, à tout de suite. Votre émission Face à Face, Fabrice à la technique, Michel Léger. On arrive en bout de course. On va conclure un petit peu notre rencontre de ce soir, qui avait pour but de parler des différentes addictions et de témoigner avec les par nos participants là, de témoigner et d'apporter aux auditeurs peut-être des éléments de réponse. De toute manière, Jean-Paul Bruno, on peut vous appeler. Vous avez... J'ai entendu que vous donniez aussi votre numéro de portable. Alors, je ne sais pas si ça peut servir.
Un portable professionnel.
Professionnel, bien sûr.
Mais disons un professionnel de bénévolat, puisque je suis totalement bénévole. Donc, je suis à l'écoute. Et mon portable donc, est à la disposition de ceux qui ont réellement besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas. 06 09 21 26 92. Et sinon, celui de la structure, 01 34 28 64 50. Donc nous sommes au 4 rue Gallieni, à Montmagny, dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Donc très facile d'accès, puisque nous sommes à 3 stations de la gare du Nord. Donc, il y a des trains toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est très facile d'accès en venant de Paris. Et nous sommes sur l'approche banlieue nord.
Vous avez des activités dans toute la France, évidemment, ne serait-ce que par vos formations ou vos informations scolaires.
Oui. Donc on peut effectivement se déplacer. On est 3 intervenants pour faire de la prévention en milieu scolaire. Et chaque intervention nous permet donc... de prendre 2 classes à la fois sur 2 heures, et il y a toujours 2 témoignages de nos pensionnaires volontaires pour témoigner un peu des conséquences liées à l'usage des produits. Et les témoignages sont des points très importants, puisque c'est toujours dans le bilan que l'on fait à chaque intervention, c'est toujours le point le plus fort. Donc ça marque les esprits. Bien entendu, le témoignage direct à cette puissance et la mémorisation qui est faite sur les conséquences liées à l'usage, ça les marque de nombreuses années, parce qu'on est souvent donc interpellé quand on retourne des années après dans ces mêmes établissements. Ils demandent des nouvelles des intervenants, surtout des pensionnaires qui nous ont accompagnés. Donc je pense que tous ces éléments sont importants à partager. Donc on est là à disposition des chefs d'établissement, des infirmières scolaires ou de tout groupe en tout cas, souhaitant avoir des informations et des conseils.
Vous faites des formations en entreprise aussi sur...
Oui, de plus en plus, le milieu du travail n'est pas épargné. Donc beaucoup d'absentéisme, voire d'accidents du travail qui aujourd'hui pourraient être épargnés si... on prenait un peu plus en charge tant la prévention que permettre à une personne donc qui a besoin de produits pour fonctionner professionnellement, l'aider à en tout cas se séparer de cette béquille chimique, comme on le disait tout à l'heure, suffisamment tôt pour se maintenir dans le travail ou conserver en tout cas son emploi. Et aujourd'hui donc il y a des obligations faites à l'employeur en matière de sécurité. Donc ils ont déjà le registre unique à remplir, dans lequel on doit anticiper sur ce risque. Donc une des bonnes mesures, c'est de faire de la prévention et d'ouvrir un peu cet espace, en tout cas de soins, puisque quand on est en arrêt maladie dans une entreprise, moins ça va durer, mieux ça vaut. Voilà, donc les entreprises peuvent faire appel aussi à nous.
On va conclure. Vous allez retrouver dans quelques instants Éclectique, la prochaine émission. Je vais demander à vous trois de faire passer un message. Alors, ce ne sera pas forcément une solution, puisque c'est votre vécu, chacun étant différent. Joseph, qu'est-ce que Joseph peut dire à celui qui l'écoute? Pour ne serait-ce que lui donner confiance ou le décider à, comme l'auditrice, à téléphoner ou à aller voir EDVO ou je sais pas.
Non, je voudrais parler d'une chose, je voudrais vraiment parler d'une chose, c'est de l'abstinence. Je voudrais dire une chose sur l'abstinence, que c'est pour certains, je sais que c'est souvent une idée un peu une idée un peu austère, un peu encore pire peut-être marquée d'un autre temps, connotée un peu parfois même à l'idée de pénitence. Je voulais dire simplement que grâce à l'abstinence que j'ai conquise et qu'on m'a aidé à conquérir, j'ai eu accès à quelque chose de très grand pour moi, c'est la liberté. et cette idée aussi de presque de revivre et de ressusciter. Et l'autre chose très importante aussi pour moi, je crois, c'est dans cette idée même d'abstinence, c'est de j'ai trouvé le bonheur, quoi. Et j'ai retrouvé ce langage du cœur que j'attendais depuis très longtemps. Ça prend du temps, hein, je veux dire, ça c'est pas comme ça, mais c'est très important de dire ça parce que souvent, je sais que c'est une idée qui est souvent très blâmée. Je fais des permanences téléphoniques, parfois des gens téléphonent, c'est une idée qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui. Parfois très jeunes, ils ne comprennent pas. Voilà. Je voulais insister là-dessus. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait personnellement, ça m'a aidé surtout à acquérir une forme de détachement, de lâcher prise, et finalement de vivre ma vie et les difficultés que j'avais à affronter avec plus d'humour. Alors qu'avant, je les affrontais beaucoup plus avec de l'ironie et de l'égocentrisme. Voilà, je finirai là-dessus.
Ludovic, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut, puisque vous êtes metteur en scène, est-ce qu'on peut faire une pièce de théâtre sur le sujet ?
J'en ai fait. Je racontais l'histoire d'un type qui, pour aller s'acheter de l'héroïne, allait attraper des chats la nuit et les vendait dans les restos chinois, et ça se transformait en M. Un jour, il n'a pas trouvé de chat, c'était la nuit, il avait des jumeaux, il en a vendu un des deux, et après, il était devenu abstinent, il était devenu complètement fou, parce que chez les narcotiques anonymes, ils ont cette étrange manie d'aller souvent manger aux Chinois après les réunions, donc forcément, à chaque fois, il y allait, vous imaginez. Donc voilà, c'est mon ami Riton qui jouait là-dedans. C'était une façon de rire, parce qu'on a fait des choses tellement énormes, tellement insupportables parfois pour trouver de la drogue. C'est tellement de souffrance tout ça que moi quand ça va pas j'allume un gros cigare, j'allume un Cohiba et je rigole, quoi. C'est un réflexe, quoi, vous voyez. Et je crois que le rire peut beaucoup de choses. Bon, j'ai des choses bien différentes, bien sûr, mais oui. L'abstinence est possible, on n'est pas, il n'y a pas de condamnation. Le truc, pour moi, ce n'est pas possible, ça n'existait pas. Si vous saviez dans quel état de désespoir, dans quel état de physique et tout je pouvais être il y a 15 ans, mental même. Jim Morrison, avant qu'il meure, grosso modo, physiquement, à quoi je ressemble, mais maintenant j'ai la chance de perdre beaucoup aux femmes, vous voyez, c'est pas. Et vraiment, dans tous les domaines, j'étais vraiment touché. Et c'était une catastrophe. Et évidemment, toutes ces victoires, ça s'acquiert et ça n'empêche pas le doute. Le doute, c'est l'intelligence. Mais il ne faut pas rester dans le doute. Voilà, merci.
Jean-Paul Bruno, 2 minutes. Une minute.
Difficile après.
Difficile, oui, très difficile.
Ce que je viens d'entendre, effectivement, mais ça prouve bien qu'on retrouve ses capacités. Et des capacités très agréables à écouter, et je pense que ça devrait donner l'envie à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être en chemin pour retrouver leur capacité intellectuelle ou voire tout à fait psychologique de base pour le chemin de la liberté, du bonheur, du plaisir retrouvé. Donc, comme l'a dit Joseph, cette liberté, c'est précieux. Et quand on est esclave d'un produit ou d'un comportement addictif, c'est la misère. Donc, la richesse, c'est la liberté. Et si je peux encourager tous ceux qui l'ont perdu à retrouver le chemin, même difficile, on est là pour les aider. Donc.
Merci à Jean-Paul Bruno, merci à Ludovic, merci à Joseph, merci à... Fabrice, pardon, à la technique.
Merci Fabrice.
À bientôt.